18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 février et vous écoutez, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, on met les femmes sur le devant de la scène avec le temps fort, les femmes en scène, organisé par la ville du Relais Kerlon, qui a lieu du 15 février au 30 avril. Pour en parler, on accueille Julien Saout, chargé de développement culturel pour la ville du Relais Kerlon. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Cet temps fort, donc, vous l'organisez autour de différents événements culturels. Quel a été votre rôle par rapport à la mise en place de ce temps fort ?
Alors moi je suis chargé de l'écriture artistique des rendez-vous de la commune. On a fait le choix il y a maintenant plus d'un an de développer cette thématique autour de l'égalité femmes-hommes à travers le champ artistique, ce qui est notre domaine au service culture à la mairie du Relais Kerlon. Un temps fort qu'on a développé en partenariat également avec la médiathèque du Relais Kerlon et plusieurs associations, plusieurs partenaires associatifs et des compagnies professionnelles, puisqu'on a une programmation très largement professionnelle dans le milieu artistique. Ouais.
Et donc, quand vous dites femmes en scène, c'est du coup forcément des femmes qui sont dans le secteur de l'art ou de la culture ?
Oui, on a fait le choix, en fait. C'est pas un temps fort où on parle uniquement des femmes, c'est vraiment un temps fort où les femmes s'expriment aussi, puisque, voilà, moi, avec ma position d'homme, j'ai fait le choix de proposer, de me laisser inspirer, en fait, par plusieurs femmes, artistes, chanteuses, musiciennes, afin, effectivement, d'écrire ce temps fort-là, pour suivre le parcours de plusieurs d'entre elles et partager avec elles leurs rêves, leurs doutes, leurs ambitions. Voilà, ça c'était le projet initial qui, avec ce contexte, est un peu bouleversé.
Et du coup, peut-être que vous pourrez parler du contexte justement, mais quels sont les objectifs de base de la ville par rapport à ce temps fort-là ?
Alors ce temps fort, il s'inscrit dans une lignée bien connue du Relais Kerlon, et ici à Radio U aussi, parce que chaque année on a la chance de pouvoir venir parler d'un festival. Pendant plusieurs années, le festival s'appelait Chapiteau d'hiver et mettait en avant les pratiques circassiennes. Ensuite, c'est devenu le festival Thermos, cette boîte chaleureuse dans laquelle on a mis plein de spectacles. Et puis cette année, on a fait le choix de renouer avec notre salle municipale et d'y programmer vraiment au chaud une douzaine de rendez-vous de compagnie. Et on s'est aperçu, effectivement, mais comme beaucoup d'acteurs culturels de la région et de politique également, que voilà, la part de créativité des femmes n'était pas assez mise en valeur, assez exploitée et soutenue dans le coin. C'est un constat qu'on a fait de manière générale, donc on a voulu lutter contre les préjugés, déconstruire les stéréotypes, et pour ce faire, donner la parole aux artistes, pour que le public, tous les publics, puissent avoir vraiment se rendre compte au quotidien et à travers l'art, puisque l'égalité passe aussi, l'égalité femmes-hommes passe aussi et se vit à travers la culture.
Et donc, au cœur de ce temps fort, il y a notamment une exposition photographique et qui reprend en partie l'exposition « Tu joues bien pour une fille » qui avait été créée par HF Île-de-France et qui s'intéresse à la faible représentation des femmes dans le secteur musical en particulier. Comment cette exposition s'est retrouvée à faire partie de ce temps fort ?
Alors, c'est une réflexion, oui, qu'on a eue en discutant avec Plage Magnétique aussi, avec qui nous sommes en partenariat. La ville du Relais Kerlon et le collège Camille Valo au Relais Kerlon, puisque nous avons un spectacle Rise Up qui va bientôt avoir lieu à destination des scolaires et qu'on monte avec Plage Magnétique. Et donc dans nos discussions, on s'est rendu compte que cette exposition un peu clé en main existait, donc on a souhaité la présenter au public de Kerlon, du Relais Kerlon, sur le mur du conservatoire de musique et de danse dont il y a une antenne au Relais Kerlon. Donc elle est visible pour tous les passants. C'est une série d'une dizaine de grands formats précisant les différents corps de métier des femmes dans le secteur des musiques actuelles.
Et donc là, à l'instant, vous parliez de votre collaboration, de votre partenariat avec Plage Magnétique. Comment ça s'est fait ?
Alors là, c'est une discussion qui a plutôt été faite avec la médiathèque. Mais bon, la médiathèque et le service culture sont la même entité. Ce sont des acteurs locaux que nous rencontrons au fur et à mesure. Et puis l'envie de développer ce partenariat est venu aussi du fait que eux sont en collaboration sur une période longue avec le collège. Et donc, on va les accompagner tout au long de ce partenariat-là. Donc pour nous, ça aura lieu dans ce temps fort là, puisque Rise Up, c'est la rencontre entre une conteuse et une contrebassiste, et nous proposons ça aux scolaires, aux collégiens, le 19 mars. Voilà, donc ça pourra jouer, on est ravis.
Et donc vous-même, là, vous le disiez tout à l'heure, vous connaissez un peu le milieu de la musique, puisque vous avez en partie organisé le festival Thermos les dernières et d'autres festivals donc les années précédentes. Est-ce que cette inégalité homme-femme dans le secteur de la musique en particulier, c'est quelque chose que vous avez pu, dont vous avez pu être témoin?
Alors oui, je connais la musique, mais on est la programmation du Relais Kerion est un tout petit peu moins musicale que d'autres. Cette inégalité, je la vis au quotidien dans mes loisirs et mes sorties. Mais dans le cadre professionnel et artistique, on va plus, nous, être fin connaisseurs, ou en tout cas mettre des femmes en scène sur d'autres disciplines. De circassiens, de conteuses, de musiciennes également. Mais on a beaucoup fait, en tout cas lorsqu'on a fait jouer de la musique au Relais Kerion et notamment à Thermos, fait la place d'une manière générale aux femmes. Donc en réalité, oui, la musique est importante pour nous d'une manière égalitaire, mais on l'a fait tout au long, en fait, des saisons culturelles. Là, c'était plus un temps fort sur le transdisciplinaire, voilà. Mais bien sûr, la musique est également touchée par cette inégalité, ouais.
Oui, mais c'est ça être ma question d'après. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de est-ce que les mairies, est-ce que les villes mettent en place des actions pour qu'il y ait une égalité au niveau du genre. Du coup, c'est vrai que je me posais la question de quelle est la place qu'accorde la mairie à sa question d'une égalité. Mais donc, du coup, vous venez d'y répondre. Donc, pour revenir à l'exposition photographique. Les photos qui proviennent de l'exposition « Tu joues bien pour une fille », elles ont été, il me semble, faites par une artiste féminine, une photographe.
Oui, c'est ce que je fais des grands yeux, mais oui.
C'est ce que j'ai vu, en tout cas.
Tout à fait.
Et je me demandais si, parce que donc il y a ces photos-là, mais il y a aussi d'autres photos,
oui,
d'autres femmes. Est-ce que ces autres photos ont été faites par des photographes femmes?
Oui. Alors, ce parcours photographique dans la ville révèle également encore deux autres travaux, dont l'un a été réalisé par Julie Lefebvre, qui est une photographe, basée à Brest. Cette exposition, s'appelle Mémoire du geste, quand les anciens parlent avec leur corps. Et elle a suivi, en réalité, le travail d'un chorégraphe, Wayne Barbast, dans le cadre d'un partenariat avec le conservatoire pour la promotion du jazz. Et donc, ce chorégraphe est allé à la rencontre des résidentes et résidents, mais des résidentes surtout, d'une maison de retraite au Relais Kerion. Et la photographe a saisi ses instants et ce que ses corps, ses mouvements, ses attitudes, en fait, traduisaient de leur passé, de leur présent, de leur futur également, hein, aux résidents. Donc, cette exposition, ce sont des grands formats noirs et blancs qui sont visibles sur le pignon de la mairie du Relais Kerion. Et c'est donc Julie Lefebvre, une vision et un regard féminin sur des femmes. Et l'autre exposition, elle, a été portée et imaginée par Didier Olivret, qui est un photographe brestois, mais qui a eu un regard vraiment très subjectif sur des femmes du Relais Kerion, qui en 2011 avaient pris la pose pour lui. Voilà, une des temps de rencontre qu'il a mis à profit de petits instants volés du quotidien de femmes du Relais Kerion. Et on les retrouve également là, plus sur les murs des bâtiments autour de la médiathèque.
Et donc vous, en tant que personne qui organisait un peu toutes ces différentes expositions, pourquoi avoir choisi ces deux artistes avec ces photos-là en particulier?
Parce qu'en réalité, là en 2021, c'est une rétrospective de tous les travaux qu'on avait engagés donc en 2011 avec Didier Olivret, et qui a une actualité aussi en ce moment. En 2013 avec Julie Lefebvre, et puis Tu joues bien pour une fille. On a envie de toute façon aussi de sortir des murs, des salles au Relais Kerion, de faire des propositions hors les murs le plus souvent possible, comme les arts de la rue l'été. Donc même en hiver, on propose un parcours photographique aux habitants.
Justement, c'était la question qui allait suivre. Pourquoi ? Enfin, parce que voilà, il y a cette volonté, comme je vous le disais à l'instant, de faire quelque chose hors les murs, de faire quelque chose à l'extérieur. À quel point le Covid a joué là-dessus ?
Alors, nous, la position qu'on a eue au Relais Kerion dans l'écriture artistique, c'est depuis voilà presque un an, c'est de voilà, de continuer à écrire, nous, programmateurs, de continuer à écrire avec le soutien et l'envie des élus. Donc, on a écrit les programmations, contractualisé avec les compagnies, sorti les documents et les supports de communication, et on s'est adapté, on a replié, on a indemnisé, vraiment, on a une position voilà d'indemnisation et de soutien aux compagnies artistiques. Donc cet été a été assez vide, mais très vite on a rebondi au mois de septembre avec des propositions hors les murs justement pour répondre aux contraintes Covid. Et là, les spectacles qui arrivent en février, on a été contraint de les annuler, et en mars on rebondit et on transforme tous nos spectacles en propositions pour les scolaires qui peuvent être accueillis en salle.
Et est-ce que vous avez l'impression que le fait de permettre aux gens, à n'importe qui, de voir ces photos, le fait qu'elles soient dehors, ça change quelque chose dans le rapport à ces photographies?
Oui, j'en suis convaincu, quand moi je vais aussi dans des villes qui ont cette politique-là d'exposition grand format dans les villes. Au Relais Kerion, on a une politique d'exposition d'artistes professionnels au sein de la médiathèque, donc en intérieur. Et je crois que voilà, nos publics sont habitués à venir découvrir et en salle et en espace public voilà, les travaux qu'on leur propose, les surprises qu'on a envie d'initier dans la ville. Donc oui, j'ai croisé plusieurs personnes voilà, qui lèvent les yeux, même ayant oublié que la photographie était sur le mur. Donc en fait, c'est une rencontre qu'on a envie d'instaurer au gré du parcours des habitants dans leur quotidien. Et on le fait avec la photo, mais on va le développer avec d'autres disciplines et d'autres spectacles également dans les saisons à venir, se rapprocher des habitants et leur provoquer voilà, de belles surprises.
Oui, puis j'imagine que ça participe au fait de vouloir rendre ça accessible à vraiment tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui passe par ces rues-là, même des gens qui n'habitent pas au Relais-Kerion, peuvent voir cette exposition tomber dessus.
Ah, tout à fait, il y a les habitants, mais voilà, des gens de passage, des touristes voilà, au mois de février-mars. Mais oui, c'est complètement accessible à tout le monde.
Et est-ce que vous, personnellement, dans ces différentes photos, il y a un portrait, une photographie qui vous a plus touché?
Moi, celle qui me revient, c'était celle qu'on avait choisie d'une résidente de la maison de retraite de Kerlaouena, oui, et qui là sur le mur de la mairie, là où j'ai mon bureau. Et effectivement, il y a ce geste, ce bras tendu vers le chorégraphe et un regard complice entre le chorégraphe Wayne Barbast et la résidente. Et ce cliché en noir et blanc est vraiment très, très prenant, très beau.
Et donc là, il y a cette exposition photo, mais c'est pas la seule chose qu'il y a pendant ce temps fort. Il y a différentes choses. Tout à l'heure, vous parlez de ce mélange entre contes, enfin voilà, c'est cette nouvelle forme de contes. Il y a aussi un concours selfie, il me semble avoir vu passer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
De l'ensemble de la programmation ?
Oui.
Oui, bah on l'a voulu, comme je vous disais, transdisciplinaire, interdisciplinaire et pluridisciplinaire. J'ai oublié ma programmation avec moi, donc bon, je la connais très bien normalement. Donc ce temps fort, elle est du 13 février et court jusqu'au 11 avril, date de clôture de ce temps fort-là, qui, on croise les doigts, pourra se dérouler dehors, puisque c'est une proposition d'art de rue dehors. Donc voilà, on jongle entre un petit peu d'art de rue et là de la salle. En février, on avait un concert de la compagnie Duo du Bas, le spectacle Les Géantes, donc deux femmes sur scène. Le 27 février, on aurait dû avoir dans deux jours une compagnie brestoise pour un cabaret littéraire avec Anaïs Clorec et Lisa Lacombe. Et voilà, malheureusement, on peut pas les accueillir. Donc on a tous travaillé dans cette direction avec une belle dynamique et des acteurs locaux. On ne pourra pas reporter en réalité, comme d'autres collègues peuvent le faire, des reports, puisque on s'est engagé après sur d'autres temps forts, d'autres thématiques. Donc voilà, donc on indemnise. Au mois de mars, on avait prévu un goûter de parole avec la compagnie Mona Luna de Brest, également, sur un temps où un personnage féminin accueille un groupe lors d'un goûter, lors d'un thé, et se laisse aller à la parole avec cette histoire de femme qu'elle a récoltée, des histoires de femmes, pas toujours joyeuses, mais pour un moment comme ça convivial. Et puis trois propositions scolaires où là on va vraiment aller à fond sur la déconstruction des préjugés à partir de contes de Blanche-Neige, et ça va être complètement revisité pour un spectacle voilà de grande proximité. On va aussi s'adresser on va parler d'agricultrices, de la place des femmes dans l'agriculture, en fait, dans toute l'évolution de l'agriculture, avec du théâtre documentaire et d'objets. Et il nous reste encore plein de choses. On avait une compagnie de l'Aveyron pour un spectacle qui s'appelle Des contes du quotidien et autres chroniques féminines. Il faut imaginer un grand cercle de 14 mètres de diamètre avec 80 personnes en plein milieu. Et à partir de là, les cinq comédiennes s'emparent de cet espace-là pour une heure et demie de spectacle, et la compagnie s'appelle Les Boudeuses et savent très très bien parler des femmes. Voilà, pour dire qu'effectivement, après, on est arrivé au 11 avril avec deux compagnies, une qui s'appelle La Conserverie et l'autre La Turbulente, avec moi, Rouen Aprigent, qui présente en avant-première sa dernière création qui s'appelle Le Ventre des Daronnes. Donc là, voilà, sur le féminisme et le fait d'être mère.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui ont été annulées, hein, forcément, le Covid est passé par là. Ces choses qui sont annulées et qui sont un peu transformées, on va dire, pour pouvoir être faites devant les scolaires, à quel point c'est transformé ?
Eh bien, justement, on était encore là cet après-midi en réunion technique avec les collègues de la salle et avec les régisseurs des spectacles. Eh bien, on étudie les fiches techniques et on prend en considération et les recommandations de la sous-préfecture et les recommandations des directions d'école et nos contraintes à nous de salle. Donc, faut imaginer que on essaye de maintenir au maximum la forme artistique, et tout se joue dans l'accueil des publics en réalité, dans le placement dans les gradins, dans les arrivées, dans les espacements, sur des jauges réduites. Mais là, c'est un parti pris et une volonté de la ville d'assumer le fait que oui, il y aura moins de public scolaire, mais on a tous envie, besoin, et les voyants sont ouverts pour accueillir des mineurs en salle dès lors qu'il s'agit juste de spectacles et qu'ils sont assis. Donc on a tous eu envie de sauter à grands pieds dans cette étude-là, qui est sérieuse, hein, puisqu'on étudie voilà toutes les modalités, les contraintes sanitaires, de manière à accueillir tout le monde en sécurité. Donc voilà, donc ce qui fait à peu près une dizaine de séances qu'on va réserver aux scolaires de la commune, collégiens comme maternelles et primaires.
Et en parlant de la commune, de la ville, en plus de ce temps dédié aux femmes, hors de ce temps dédié aux femmes, la mairie, qu'est-ce qu'elle met en place ? Qu'est-ce qu'elle fait pour lutter contre ces inégalités, que ce soit dans le secteur culturel ou même dans les secteurs autres ?
Alors, en discutant avec les services, avec les collègues, ce sont des actions. Alors, celle-ci a un coup de projecteur, puisque voilà, l'image parle beaucoup dans la culture. Dès qu'on fait un événement, ça se voit au niveau culturel. Mais après, ce sont des actions... parfois plus discrète du centre social, du CCAS de la commune, de la médiathèque également, des actions portées par les écoles, beaucoup d'initiatives du service enfance jeunesse. Je sais que les collègues avec les adolescents aussi travaillent dans cette veine là. Donc l'idée, oui, c'est d'en parler. C'est de faire intervenir ou des artistes ou d'autres acteurs et prestataires pour évoquer ça, et c'est voilà de confronter les jeunes à une réalité qui doit être modifiée. Et nous, à la culture, on va essayer de toute façon de plus en plus, au-delà de ce temps fort là, d'être également dans cette veine de valorisation des propositions et féminines, et ne pas tomber non plus à l'inverse. Mais il y a encore pas mal de boulot, ouais.
Et enfin, des événements, des expositions sur la place des femmes dans le secteur culturel, mais pas que. Cette dernière année, il y en a quand même de plus en plus, et heureusement. Mais pourquoi on devrait venir à cette exposition-là, en particulier ?
À cette rétrospective de photographie ? Parce qu'en ce moment, avant 18h, il est permis de se balader, et que le relais Kerion est un super lieu de balade avec son littoral, et il suffit voilà de faire une boucle par le centre de la commune pour découvrir ces photos-là, et puis s'arrêter à la médiathèque aussi pour prendre le temps, parce que c'est un chouette lieu.
Bah, merci beaucoup.
Merci.
C'était donc Julien Saout, chargé de développement culturel pour la ville du relais Kerion, venu nous parler du temps fort Femmes en scène, qui aura lieu jusqu'au 30 avril et dont fait partie les différentes choses dont on a parlé, dont l'exposition photographie. Et tout de suite, on écoute Horse du groupe Les Amirals. Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Comme je le disais en introduction, ce soir on parle de femmes et on va donc parler cette fois de femmes et d'histoire. Il y a 76 ans, Ginette Kolinka était libérée du camp d'Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui, à 96 ans, elle continue d'apporter son témoignage aux élèves de lycée et collège, ceux qu'elle appelle les passeurs de mémoire. Elle rencontrait mercredi dernier les élèves du lycée Saint-Sébastien à Landerneau.
Mercredi 17 février dernier, dans la salle de théâtre du lycée Saint-Sébastien à Landerneau, plusieurs classes de lycéens sont rassemblées pour une intervention.
Pour moi, ce n'est pas une conférence, c'est un témoignage. Et je raconte ce que j'ai vécu à des jeunes en espérant que ces jeunes vont réfléchir et surtout vont en parler autour d'eux.
Cette voix, c'est celle de Ginette Kolinka, une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. À 96 ans et depuis 30 ans, elle intervient dans collège et lycée pour partager son histoire.
Tant que je pourrais marcher, et que je pourrais marcher sans effort, oui, je continuerai. Je continuerai parce que toutes les personnes qui m'écoutent, sur la quantité, il y en aura peut-être 2-3 qui changeront d'idée. Et ces 2-3, ça fera boule de neige, et puis peut-être qu'un jour, les antisémites, les racistes, il n'y en aura plus. Ça ne m'est pas très, mais enfin, on ne sait jamais. Nous, vous savez, quand on est rentré, on disait plus jamais ça. Donc, j'espère que ça deviendra réalité.
Aux élèves attentifs, Ginette Kolinka raconte son récit et leur souligne l'importance de véhiculer cette partie de notre histoire et le rôle de chacun dans cette mémoire collective.
Ce que j'attends, c'est qu'ils deviennent des passeurs de mémoire. Je ne viens pas pour vous faire pleurer. Vous savez, pleurer, on prend un oignon, on le touche et on pleure. Moi, je veux vous faire réfléchir que tout ce qui est arrivé, c'est à cause d'un homme qui haïssait les Juifs. Voilà où mène la haine à des Birkenau, à des Auschwitz. Si je parle, c'est pour ça. Pour que vous vous souveniez que tout ce qui est arrivé, c'est la haine.
la cause de tout ça.
Pour les élèves du lycée comme Anna et Marie, cette histoire que tout le monde apprend un jour à l'école prend un tout autre sens racontée ainsi.
On apprend bien sûr à l'école des choses sur les camps de concentration, etc. Mais en fait, on se rend pas forcément compte de la violence qu'il y a eu là-bas. Et parfois, je me dis, on se prend la tête pour des petites choses dans la vie de tous les jours. Et face à des personnes qui ont un vécu comme ça, on peut que qu'elle soit notre modèle, en fait.
Moi, je trouve ça très important parce que ça permet qu'il n'y ait plus ça après, plus tard, enfin, dans les années à suivre, et qu'on puisse passer le message, parce que là, elle est une des dernières à pouvoir nous le raconter. On va pouvoir raconter à notre famille plus tard et tout. Et même si, malgré tout ça, il y a toujours des génocides, mais c'est très important qu'on soit au courant que ça existe et qu'on ne nous cache pas tout ça.
C'est les professeurs qu'on peut remercier. Parce que c'est eux qui ont formé leurs élèves à notre écoute et qui vous continueront à en parler. Parce que vraiment, il n'y a qu'eux qui seront capables de perpétuer notre histoire. Quand ils seront à la période de la Seconde Guerre mondiale, comme ils font maintenant, c'est sûr qu'on ne sera plus là pour témoigner, mais eux en parleront. À un moment donné, il n'y aura plus personne du tout qui pourront raconter une histoire. Eh bien, ils liront, ils verront des films, et c'est les professeurs d'histoire qui pourront en parler. De français aussi. Nous, on ne sera plus là. Ça, c'est sûr.
Il y a quelqu'un qui doit applaudir, c'est moi, parce que vous avez été formidable pour me poser toutes ces questions. Alors, merci.
On remercie Laurette d'être allée à la rencontre de Ginette Colinca la semaine dernière à Landerneau. sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et c'était le titre Tour de Fleuve. Et tout de suite, on écoute la chronique radiophonique Le Littoral Autrement, qui se concentre sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, réalisée par Raphaël en service civique à Radio Active. Gaëtan Cormi, chargé d'études scientifiques, va nous emmener au laboratoire pour nous présenter les expériences qu'il mène au quotidien. Toujours axé sur l'importance du benthos, il assure avec Anthony le suivi scientifique de la réserve.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Moi, c'est Gaëtan Cormi, donc chargé d'études scientifiques de la réserve naturelle. Mon but, c'est vraiment d'assurer les suivis scientifiques sur la réserve. Je passe beaucoup de mon temps au labo, donc ici on est au laboratoire. Ici on s'occupe de toutes les analyses, tous les prélèvements de terrain, on va les analyser ici. À la réserve, on a différents suivis au cours de l'année. Le but étant de suivre comment évoluent nos populations. On fait ça avec les comptages oiseaux, deux fois par mois, pour avoir une vision très pointue sur l'évolution des populations d'oiseaux qu'on a en baie. On fait ça donc avec les invertébrés benthiques. Une fois par an, donc on fait des prélèvements d'invertébrés benthiques et de sédiments également, puisque les deux sont à analyser ensemble, puisque le sédiment va conditionner énormément les invertébrés benthiques. Si nos communautés changent pour X raisons, ça peut influencer tous les réseaux trophiques, toute la chaîne alimentaire qui est autour. Par exemple, une espèce d'oiseau qui prédate un ver en particulier et qui vient changer de place ou à disparaître, on va pas forcément retrouver les mêmes oiseaux au même endroit en fonction de ces changements-là. Donc ces inventaires-là, ça permet de faire une liste d'espèces, de savoir où est-ce qu'ils sont répartis géographiquement, et de voir également l'évolution temporelle. C'est important de voir l'évolution temporelle parce qu'il faut bien comprendre que les écosystèmes, ce ne sont pas des choses figées, c'est en perpétuelle évolution, c'est dynamique. Donc des prélèvements tous les ans, ça permet de voir comment notre estuaire évolue, dans l'objectif d'avoir une vision globale, non pas au niveau réserve naturelle, mais au niveau du territoire français. Par exemple, si on a vraiment des grosses perturbations, on sait que certaines espèces d'invertébrés, notamment les bivalves, donc les coques, les moules ou autres, utilisés par l'homme, notamment à la pêche à pied, et bien ces espèces-là peuvent changer de place, on peut perdre notre gisement de coque ou autre, et donc ça va aussi jouer sur les activités humaines qui peuvent changer de place, ou qui vont s'adapter aussi à ces changements-là, puisqu'on est quand même dans un contexte de changements globaux, de changements climatiques, avec une augmentation de la température, changement dans les courants marins, augmentation de l'acidité de l'eau, tout ça. Donc ça, ce sont des processus sur du long terme, mais c'est en train de se passer, donc les invertébrés, les oiseaux, tout ça va évoluer. On va avoir des changements dans les 10 ou 50 prochaines années. C'est des choses à prendre en compte également dans la gestion à long terme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est analyser le sédiment. Pour analyser une carotte de sable, on va le faire passer par une colonne de tamis, avec des tamis de très grosses mailles au début, de plus en plus petites vers la fin. Et comme ça, on aura un tri des grains de sable selon leur taille, selon leur classe de taille. Et ça va nous permettre de savoir si dans cette carotte de sédiment, on a beaucoup de grains de sable très grossiers, très gros, ou alors au contraire, des grains de sable très fins, qu'on appelle la vase. Et ça permet de mettre en association avec la faune et de savoir si cette faune-là est associée à un milieu plutôt vaseux, donc à des tailles de grains de sable très petits, ou alors un milieu plutôt sableux, donc à des taille de grains de sable un peu plus gros. Donc une carotte sédimentaire, c'est réalisé avec un tube et le but c'est vraiment de prendre les 5 premiers centimètres du sédiment puisque c'est là où va vivre les principales espèces d'invertébrés benthiques et récupérer ça pour l'emmener au laboratoire. Donc le suivi du sédiment va permettre de voir s'il y a des changements dans la granulométrie, donc si on a des bandes vases qui se forment ou alors des bandes sable qui se forment ou qui se déplacent sur l'estran. Toujours, ça conditionne les communautés d'invertébrés. Et donc, par exemple, très concrètement, la création de digues pour un port, ça va modifier le milieu, ça va réduire le courant, ralentir le courant. Et donc, on va avoir un dépôt des tout petits grains de sable, donc un dépôt de vases qui va se faire. Au cours du temps, on aura plus en plus de vases qui va se créer dans cette digue-là. Et donc, ça change les communautés, bien sûr. Les espèces vont changer puisqu'ils ne vont pas être associés aux mêmes habitats. Donc, on va avoir des espèces vaseuses qui vont s'implémenter. Une modification de la granulométrie, les bancs de sable qui vont se décaler et on va voir voilà, comme ça un changement de type sédimentaire en fonction voilà, de différentes activités humaines.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur le 101.1 FM.
I can feel something disturbing in your mood. Why? I don't have the answer, but I can't make up your mind about the problem. So dear, that angels have already feared. You're so young for that. I'm not an exorcist, but I can give you my hand to get out of the pit.
Qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu fais des cauchemars?
Après un souper léger, claquer de vivre sous les ordres d'un BDG. Morphée te traîne à elle, tes yeux s'engourdissent. La nuit est belle et tes problèmes s'engloutissent. Ils choisissent le sommeil lourd pour refaire surface. Rappeler que tu ne fais que sur place et enchaîne crasse sur crasse. C'est plus des monstres mais des suicides sous ton lit. Tu restes à fond dans le palais des zombies. Sous la pleine lune, les loups changent en banquier. Ils prennent ta thune et ton corps sera leur banquier. Tu transpires loin des draps de soie des rentiers. En voyant ton tronc bas au-dessus de toi prêt à t'éventrer. Tu cours mais le décor est le même. Tous les piétons portent des masques. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? La nuit sombre, sa noirceur s'intensifie. À mesure que t'avances vers tes quartiers qui se gentrifient. Et tout d'un coup la rue s'éclaire. Dévoile un Éden, sorte de paradis sur terre. Tour utile, des façades aux automobiles. Tu respires encore choqué de toutes ces choses horribles. À présent, tout paraît si paisible. Assis sur ce banc, tu ressens ton malaise qui s'éclipse. T'admires ces grandes maisons d'époque. Quand soudain un bémol, une main tapote sur ton épaule.
Bonjour, présentez vos papiers. Qu'est-ce que tu racailles comme on peut bien foutre dans les beaux quartiers? Je reste stupéfait par l'agression. Vu identifie la ken et le ton condescendant d'Afrique en civil. D'un coup t'oublies le paysage, la calmie, que dalle. Si tu te dévisages, ton cœur s'emballe, la panique te gagne. Puis soudain les coups partent. Un premier dans le foie d'entrée te fait bien comprendre que ce soir tu seras sur les fouloirs. La violence des coups te fait perdre la notion du temps. Tu sais qu'il s'écoule mais tu ne sais pas comment. T'émerges de ton coma dans un quartier puant. Crâne qui conne, mal aux jambes, la tête dans le caniveau à recracher du sang. Puis tu te redresses en galère. Observe à nouveau, c'est le même quartier désert qu'au début du scénario. Dans la rue personne, le vide et la grâce. Puis d'un coup le réveil sonne parce qu'il est l'heure d'aller au taf.
Tu rêves au cauchemar.
Après une nuit agitée, Steve touche café, prêt à tracer. 8h du mat, les neurones déjà chités. Pour supporter le cauchemar du quotidien d'une vie sacrifiée. Tu détestes ton taf, mais chaque jour t'es à l'heure à ton poste. Et rêve pendant 8h d'envoyer chier ton boss. Dans le cauchemar de ta vie, tu ne fais que rêver d'autre chose. Ouais, mais tes soucis poursuivent jusque dans ton sommeil sans la moindre pause.
Assez longtemps pour qu'une fois endormi, tu te réveilles plus jamais.
au-dessus de moi quand tu me regardes comme ça. Quand tu fermes un peu les yeux comme un vieux chien malheureux. Je sais ce que tu veux quand tu frétis de la queue.
Always sound like a hell of a plan. The hell of a Texas, it'll be the plan.